Deux.
Merci.
Oula. Ah ouais. C'est bon. Ça va là ou pas? Ouais, super. Ben, gloire au Seigneur, surtout, pour ce qu'il fait. C'est important de dire aussi que c'est chacun de nous hein, qui peut prier pour quelqu'un d'autre. Hein. Quand on entend ce genre de témoignage, moi je suis toujours émerveillé parce que c'est vraiment Dieu qui fait. Nous, on est juste des instruments entre ses mains, mais on peut tous prier les uns pour les autres et Dieu agira de la même façon parce que c'est Dieu qui guérit, c'est Jésus qui guérit, d'accord ? Donc que ce soit un encouragement pour nous tous à témoigner des petites choses, à remercier le Seigneur, mais aussi à prier les uns pour les autres et à croire qu'il répond à nos prières. Hein. Alors donc, pour reprendre l'enseignement de la parole, ça va, vous n'avez pas trop froid ? Un peu, hein ? J'ai un peu des esquimaux en face de moi, je vois beaucoup de doudounes et d'écharpes encore, mais bon, on va essayer de faire avec. Le fil rouge de cette année 2021, c'est ce verset de Luc 22, 19, que nous venons de lire en plus. « Faites ceci en mémoire de moi ». Ce fil rouge nous invite à imiter le Christ, à faire ce qu'il fait, à dire ce qu'il dit. Alors, justement, faire ce qu'il dit ou dire ce qu'il dit, mais qu'est-ce qu'il dit ? Et j'ai senti vraiment que le Seigneur voulait nous inviter ce matin à parler du fait d'écouter la voix de Jésus. C'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup cheminé, appris, fait d'erreurs, et je voudrais vous partager en fait un petit peu mon cheminement là-dessus et comment j'en suis arrivé à me dire que c'est tellement important pour nous chacun individuellement d'entendre la voix de Jésus, mais aussi pour nous en tant qu'évidemment que communauté aussi comment on entend la voix du berger. Alors la question, c'est est-ce qu'on obéit à Jésus, on écoute sa voix et on le suit ? Ou est-ce qu'on mène notre vie en espérant que Jésus nous suive et que quand même il bénisse un peu ce qu'on fait, quoi ? Autrement dit, qui suit qui ? On va lancer la petite vidéo, Gérard, tu veux bien ? J'ai une petite vidéo de très courte à vous montrer. Oui. C'était ça, hein, c'est bon. Voilà. C'est en anglais, mais ça parle de soi-même. Hein. Alors, on va lire dans l'évangile de Jean, au chapitre 10. C'est dans le PowerPoint, c'est la deuxième diapositive. Ça, vous l'aurez aussi. Voilà. Merci. Celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui. Parce qu'elles ne reconnaissent pas la voix des étrangers. Nous sommes les brebis, nous sommes le troupeau du Seigneur, et individuellement, nous sommes tous faits pour entendre la voix de Jésus. Et ce passage nous explique qu'il y a une communion particulière entre les brebis et leurs bergers. J'ai beaucoup aimé, on a quelqu'un qui a été berger parmi nous, Denis, mais il y a cette communion qui fait que, vous avez vu, ces brebis, elles ne suivent qu'une seule voie, celle de leur berger. Et je ne sais pas si vous réalisez, mais moi j'ai mis du temps à réaliser que je suis capable d'entendre la voix de Jésus. La question que je me suis souvent posée, c'est comment elles font ces brebis pour reconnaître la voix de leur berger parmi les autres. On pourrait dire que c'est une intonation particulière, sans doute. En tout cas, ce qu'il semble, c'est que depuis qu'elles sont petites, qu'elles grandissent, cette voix leur est familière. Elle fait partie de leur environnement, elle les rassure, et elles n'ont pas fait une école où on leur a expliqué que c'est lui le berger et pas un autre. Elles ont développé cette relation intime avec la voix de leur maître. Vous êtes d'accord? Et je crois vraiment que ce passage nous explique que toutes les brebis de Jésus sont faites pour entendre la voix de Jésus. Et parfois on se pose la question, on se dit, est-ce qu'il y en a qui sont faits pour entendre la voix de Jésus et pas d'autres? Mais c'est faux. Nous sommes, nous qui avons choisi de suivre Jésus, nous sommes ses brebis, nous lui appartenons, hein, c'est même ce qui est écrit, et nous sommes tous faits pour entendre sa voix. Donc si ce matin tu te dis, moi j'ai jamais entendu Jésus me parler, eh bien je t'annonce que tu es capable d'entendre la voix de Jésus, on va expliquer, on va détailler comment, mais déjà je veux briser cette pensée pour commencer. Que peut-être certains se disent, moi je suis pas capable d'entendre Jésus, je suis pas capable. Moi je suis ceux qui suivent Jésus. Vous voyez, ça arrive aussi ça. Hein. Il y en a qui entendent, ils ont l'air de bien savoir ce qu'ils disent. Je vais les suivre eux. Mais c'est pas ça que le Seigneur nous demande. Le Seigneur nous demande d'écouter sa voix à lui. Et puis c'est un risque aussi si on fait ça, parce que si vous suivez des gens qui suivent Jésus, c'est bien. Mais si vous suivez des gens qui disent qu'ils suivent Jésus, il y a peut-être un petit moment où vous allez vous dire, mais attends, est-ce que je suis la personne ou est-ce que je suis Jésus? Et parfois, il y en a qui utilisent malheureusement aussi cette capacité qu'ils ont à entraîner les autres, à conduire les autres, pour les emmener dans l'erreur, ce qu'on appelle les faux bergers. Mais Jésus nous dit, non, les brebis, elles entendent ma voix, elles reconnaissent ma voix, et elles vont fuir les étrangers. Dans les temps que nous vivons, c'est fondamental, parce qu'il y a beaucoup de voix qui s'élèvent. Il y a beaucoup de voix s'élèvent. Et donc c'est fondamental pour nous de savoir discerner la voix de Jésus au milieu du tumulte. Parce que parfois, sa voix, elle est discrète. Mais parfois, elle se fait entendre aussi. Ça, c'est pour nous individuellement. Tous faits pour entendre la voix de Jésus. En tant que communauté aussi, en tant que peuple de Dieu, nous sommes appelés à suivre Jésus communautairement. Tu peux peut-être afficher le verset d'après, qui dit « Ah, si mon peuple m'écoutait et marchait dans mes voies, son bonheur durerait toujours, je le nourrirai du meilleur froment et je le rassasirai du miel du rocher. » J'aime beaucoup ce psaume, ce verset en particulier, parce que j'ai l'impression d'y entendre un soupir de Dieu. Ah, si mon peuple m'écoutait. Est-ce que vous entendez comme moi le désir de Dieu qu'on l'écoute en tant que peuple et qu'on marche selon ses voies? On a l'impression d'entendre Dieu dire, mais il vous suffirait presque d'écouter ma voix pour être heureux, finalement. Et souvent, nos malheurs viennent du fait qu'on a du mal à entendre Dieu, ou des fois on a du mal à écouter et à obéir à ce qu'il nous dit. Mais il nous fait des promesses, il dit « son bonheur durerait toujours ». C'est même pas intermittent, il y a un bonheur qui est là. Et puis bien sûr, être rassasié du miel du rocher. J'ai envie dans ce miel du rocher d'y voir Jésus. De voir la joie, le bonheur. Vous savez que Jésus est notre rocher, le miel du rocher. Cette saveur de Jésus qui serait au milieu de nous si nous écoutions Jésus, j'espère que nous le faisons. En tout cas, c'est un encouragement à le faire. Ce que ça veut dire, c'est que vraiment notre bonheur dépend en grande partie, en tant que communauté, notre bonheur communautaire dépend de notre écoute du Seigneur ensemble. Deuxième chose que je voudrais vous dire ce matin, donc tout se fait pour entendre la voix de Dieu, individuellement, collectivement. Et deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que quand on parle d'écouter la voix de Jésus, il y a quelque chose de fondamental. C'est la Bible. Et s'il vous arrive, à certains moments, de vous plaindre de ne pas assez entendre ce que Dieu a à vous dire, et qu'en même temps, vous ne lisez pas votre Bible, c'est un peu comme si votre téléphone portable est éteint et que vous plaigniez de jamais recevoir de coup de fil. Donc déjà, quand on a... Non mais c'est une évidence, mais en fait, ça nous arrive, il faut le dire. Hein. Des fois, moi ça m'arrive de râler, de dire « Seigneur, allez, dis-moi quelque chose là pour cette situation, j'ai besoin de t'entendre ». Et là, inévitablement, je me sens attiré vers le fait d'ouvrir la parole de Dieu. Sinon, alors évidemment, la tentation, c'est d'aller écouter, encore une fois, quelqu'un qui va me dire quelque chose. Mais la parole de Dieu, elle est là, elle est disponible. J'allais dire, il y a tellement, tellement, tellement de choses, il y a tellement de choses qui parlent. Et faites-lui confiance, il va vous parler. Quand on veut être disciple de Christ et suivre sa voie, imiter le Christ, la première chose, c'est de connaître son enseignement. Commencez par les évangiles. Alors, je nous pose une question, et je vais nous défier aussi un petit peu ce matin, mais quelle est ta discipline par rapport au fait de lire la Bible ? Quand je parle de discipline, j'espère que le mot ne vous choque pas, mais c'est-à-dire, qu'est-ce que vous décidez de faire de manière déterminée, avec la parole de Dieu, est-ce que vous la lisez ? Lire la Bible, c'est comme manger ou se laver, c'est tous les jours. Voilà. Vous connaissez ce verset, Matthieu 4:4, verset passe-partout, tout terrain. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. C'est-à-dire que c'est une nourriture, et comme toute nourriture, c'est tous les jours. Tous les jours. Alors moi, je vais vous partager ma discipline par rapport à la Bible. Je m'astreins maintenant, depuis plusieurs années, à lire un chapitre de la Bible par jour. Et je pense honnêtement que je ne pourrais plus m'en passer. Il y a tellement à découvrir dans la parole de Dieu. Vraiment tellement. Ce que je fais également dans ma discipline de tous les jours, c'est que j'ai un commentaire biblique. Vous avez une lecture quotidienne, vous avez peut-être la vôtre, sûrement même, qui vous accompagne un petit peu dans cette lecture de la parole. Vous avez, en général, c'est un verset, un petit commentaire, quelque chose comme ça, à peu près. J'espère que vous avez quelque chose comme ça, sinon faites-le. En tout cas, moi j'ai ça. Et donc je lis le chapitre, qui, en fait quand il y a un verset, je lis le chapitre du verset en fait, et puis le commentaire. Et je voudrais aussi vous inviter à une chose, c'est d'être sélectif, je vais dire ça comme ça, dans les enseignements que vous recevez. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui on a plein de ressources différentes, plein de choses qui peuvent vous correspondre à vous aussi. Mais je crois qu'un critère, en tout cas, que moi, je me suis mis en place avec le temps, c'est que je choisis les gens qui m'enseignent. C'est-à-dire que je ne reçois pas juste un enseignement parce que c'est un enseignement qui a l'air bien, qui a l'air... mais je ne sais pas vraiment qui m'enseigne. Je choisis qui m'enseigne, en fait. Et notamment, je choisis des enseignants qui ont démontré par leur vie un attachement à Christ. Je l'oppose peut-être à... Parce que je parle franchement, moi. Hein, si vous êtes, j'espère que vous n'êtes pas choqués, mais je veux vous dire franchement. Des fois, ça m'arrive de voir des enseignements qui sont plus de... c'est un peu de la soupe. C'est-à-dire que je ne veux pas avoir quelqu'un qui m'enseigne qui a quelque chose à me vendre, en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Des fois, il y a un piège un peu dans le fait de faire une lecture quotidienne où tous les jours, on va me dire que je suis génial, que voilà, il ne faut pas que je m'en fasse, que je me mette de l'énergie pour la journée. Ouais, super, vas-y, nanana. Bon, on a tous besoin d'être encouragés, il n'y a pas de souci avec ça, sur le principe. Mais vous comprenez que ce n'est pas très différent, finalement, de recevoir un petit texto tous les jours. Vous savez, on peut s'inscrire pour recevoir des petits textos par des coachs qui vont vous dire « Ouais, super, vas-y, ta vie t'appartient, machin chose. » Moi, j'ai envie que, quand je lis la parole de Dieu, elle me parle de Jésus. Elle soit christocentrée, comme on dit. Centrée sur Christ. Et quelque part, je cherche l'enseignement qui va me rapprocher de Jésus. Qui va être, pas me centrer sur moi-même pour ma journée, mais qui, au contraire, va me décentrer un peu. Je cherche ça, en fait. Je cherche à être décentré. Parce que moi, des fois, je suis dans mes problèmes, je suis dans mes soucis. Et j'ai envie de voir Jésus et de sortir et de me dire, ouais, moi, ce que je veux, c'est voir Jésus. Donc, ce que je vous dis pas, lisez un tel ou pas un tel. Ça, c'est votre choix personnel. C'est intime, en plus. Mais je vous encourage à avoir une lecture biblique du matin, qui vous encourage à écouter la voix du berger, ce que lui, il a à vous dire. Comment vous pouvez vous rapprocher de lui? Comment vous, qui va mettre en valeur l'évangile, qui va vous l'expliquer, qui va vous faire en sorte que cet évangile devienne un style de vie de tous les jours. Moi, c'est ça que je cherche. Voilà. Et donc là, c'est la deuxième année que je lis du Charles Spurgeon. Que j'aime énormément, parce que c'est quelqu'un qui est christocentré, qui parle de Christ, qui parle de Jésus, et ça me plaît beaucoup. Voilà, donc c'était vraiment deux petites notions d'introduction qui me semblent très importantes. D'abord, vous êtes fait, tu es fait pour entendre la voix de Jésus. Ensemble, on peut entendre, et on est invité à entendre la voix de Jésus. Et puis la Bible, quoi. Vraiment, on a besoin d'une discipline claire, forte, déterminée à lire la parole de Dieu. Alors je sais que c'est un peu... ça peut nous remuer de dire les choses de cette manière-là, j'en suis bien conscient, mais c'est fait exprès en fait. Parce que on a besoin de la voix de Jésus, on en a besoin. On a besoin d'ouvrir la parole tous les jours, on a besoin qu'il nous parle. Et c'est vraiment extraordinaire. Extraordinaire, c'est le miel du rocher, c'est le pain qui nourrit notre esprit. Alors après, une fois qu'on a dit ça, comment écouter la voix de Jésus? Alors moi, j'aime bien les petits outils pratiques qui me permettent de me rappeler facilement de certaines notions. Et quand je parle d'écouter Dieu, écouter Jésus, j'ai, avec mon expérience, développé en quelque sorte un petit outil qui m'aide à me rappeler comment je peux écouter la voix de Jésus. Et je voudrais vous le partager. Vous en faites ce que vous voulez, hein. Mais j'espère que ça pourra vous aider. Peut-être que quand vous écoutez Jésus, il y a des points de blocage, des choses qui vous empêchent en fait d'écouter Jésus. Et ben moi, c'est ces points-là qui m'ont aidé à écouter sa voix. Alors voilà, c'est cadeau, c'est quelques années d'expérience. Je crois que c'est vraiment biblique et je crois que c'est en tout cas, ça a été fructueux dans ma vie, alors que ça le soit dans la vôtre aussi. Alors ce petit outil, il comprend 5 lettres. C'est A-E-R-I-O. Voilà. A-E-R-I-O. C'est mon chemin pour écouter Jésus. Alors, on va commencer par le premier. A comme adorer. Je crois profondément que quand Jésus nous a partagé cette image du berger et de ses brebis qui entendent sa voix, je crois que c'est vraiment une invitation à la communion, à la relation avec lui. Encore une fois, ces brebis, elles écoutent la voix de leur berger parce qu'elle leur est familière. Donc c'est quelque chose qui s'est construit avec le temps, avec la proximité. L'écoute de Jésus commence par la communion avec Jésus. Commence par un cœur à cœur. Commence par ce temps que tu passes dans la prière, dans l'adoration. Aimer Jésus. J'aurais pu mettre aimer aussi. J'hésite souvent entre les deux. Ça peut être A comme aimer. C'est le temps et l'attention que tu vas apporter à Jésus. L'inverse de ça, c'est le fast-food. C'est-à-dire que Jésus, c'est mon distributeur automatique. J'arrive avec ma pièce. Clac, je veux une réponse à ma prière. Bah tiens, c'est bizarre, ça, j'ai mis une pièce, ça ne descend pas tout de suite dans le distributeur de friandises. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est un peu la culture fast-food, quoi. Je me dis, je dois arriver avec Jésus, il doit me donner une réponse. Bon, il n'y a pas beaucoup de communion là-dedans, si je vois Jésus comme un distributeur automatique. Non, Jésus, c'est notre bien-aimé. On l'a chanté si bien ce matin. Mon bien-aimé. Je lui accorde du temps. Beaucoup de choses pour entendre la voix de Dieu passent par le temps. Il y a d'autres raccourcis parfois qu'on prend aussi par rapport à ça. On se dit, ah là là, il faut que quelqu'un prophétise sur ma vie. Donc on va courir de prophétie en prophétie en espérant que il y en a une qui va nous tomber sur nous et qu'on va enfin nous donner la réponse que nous attendons tant. Comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de critiquer le ministère prophétique. La prophétie, c'est un ministère, c'est un service, c'est un don particulier que Dieu donne à certaines personnes pour discerner les choses. Mais ça ne remplace pas notre communion avec Jésus. Amen. Amen ou pas ? Amen. Ça ne remplace pas, ça nous aide. Ça nous aide. Parce que parfois, effectivement, au milieu du tumulte, on a besoin que Dieu soit plus clair. Aussi, en tant que communauté, des fois, on a besoin que la voix prophétique se fasse entendre pour les périodes de transition. Mais rien ne remplace notre communion avec Jésus. Et même si on vous prophétise quelque chose sur votre vie, vous devez toujours le passer au crible de votre relation avec Dieu et de la parole de Dieu. Toujours. Et un bon prophète vous dira toujours ça d'ailleurs. Vous dira, ne prends pas les choses forcément au pied de la lettre. Ne prends pas tout ce que je dis comme ça sans réfléchir. Prends du temps avec Dieu pour discerner si c'est vraiment une confirmation de choses qui t'ont déjà été dites, etc. Donc le cœur à cœur, ça ne peut pas se remplacer. L'adoration, cette relation avec Dieu. Je vous partage aussi ma discipline de prière. Aujourd'hui, je prie, depuis plusieurs années, je prie au moins une heure par jour. Alors quand je dis ça, j'ai bien conscience que ça peut paraître, pour certains, ça peut paraître beaucoup, peut-être pour d'autres, c'est pas assez. Une heure par jour depuis plusieurs années. Quand je dis ça, je voudrais vous rassurer, j'ai commencé ma vie de prière à zéro. Pendant tout un temps, au début de ma conversion, j'avais pas de vie de prière du tout. Donc, quel que soit là où vous en êtes aujourd'hui dans votre discipline de prière, votre vie de prière, vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Si vous êtes à zéro, vous pouvez commencer, il n'y a pas de problème. Mais je veux vous encourager par là. Au début, je faisais zéro, et puis quand je faisais 20 minutes par semaine, je trouvais déjà ça très très long. Je me suis dit, waouh, là je prie 20 minutes par semaine. Waouh, la classe. 20 minutes, ça me paraissait très très long. Je ne sais pas si vous en êtes avec ça. Mais ce que je veux dire, c'est que l'essentiel, c'est vraiment d'avoir ce désir de prendre du temps avec Jésus dans votre vie de tous les jours. Lui donner du temps. C'est ça l'adoration. Et l'écoute commence par l'adoration, commence par ce cœur à cœur. Si vous ne faites, si vous avez du mal à entendre la voix de Dieu et que vous ne savez pas pourquoi, et que vous n'avez pas vraiment un temps avec Dieu, je vous demande, évidemment pas, l'idée c'est pas que vous mettiez une heure par jour si vous n'avez pas ce temps-là. Si vous l'avez, faites-le, hein. Mais je peux comprendre que ce soit compliqué. Mais ayez un rendez-vous avec Jésus tous les jours. Je dis ça aux ados, hein, à GC, on dit ça, à Génération Consacrée, on dit ça. Quelle que soit la façon dont tu fais, prends 5 minutes au moins avec Dieu tous les jours pour communier avec lui, apprendre. Tu lui partages tes problèmes, tu lui dis ce que tu ressens, mais tu communies avec lui. Et avec le temps, tu vas développer, tu vas commencer à reconnaître cette voix, la voix du berger. Tu vas dire, ah mais quand Jésus dit ça, je commence à comprendre ce que ça veut dire pour ma vie, pour les autres. Et ça viendra avec le temps. Ça, c'est individuellement. Et en tant que communauté, alors, quelle est la place de la prière au milieu de nous ? Pardon. Quelle est la place ? Quelle est la priorité ? Est-ce qu'on met la priorité sur la prière ? Est-ce que c'est important pour nous ? Est-ce que c'est important pour chacun de nous ? Est-ce qu'on se retrouve ensemble pour prier ? Est-ce qu'il arrive que notre Église se rassemble et dise « on va prendre un temps pour prier » ? Est-ce que c'est important pour, dans notre, la façon dont on se présente aux autres ? Est-ce que c'est important pour nos responsables ? Est-ce que c'est important, est-ce que la prière fait partie de notre environnement normal de la communauté ? Et je fais là, de manière pas du tout innocente, un petit peu de publicité pour la maison de prière. Nous avons le privilège d'avoir une maison de prière dans cette église, donc des rencontres de prière dans la semaine. On a besoin de passer du temps ensemble à prier et à nous retrouver devant Jésus ensemble et à adorer Jésus ensemble. Deuxième lettre, E comme écouter. J'ai remarqué quelque chose, et je pense que ça, le mariage aide beaucoup, c'est que pour écouter quelqu'un, pour entendre quelqu'un, il faut l'écouter. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? C'est-à-dire que des fois, on entend. On entend. Mais quand on est marié et qu'on a besoin de se parler, c'est « écoute-moi ». Ce n'est pas juste « sois dans la même pièce que moi ». C'est écoute. L'écoute, c'est une posture dans laquelle on est actif. Si vous avez appris ça, je ne sais pas, dans les milieux professionnels, des fois on apprend ça, ou dans le milieu associatif. Écouter quelqu'un, c'est écouter. C'est se donner à l'autre son attention. Écouter quelqu'un, c'est faire silence. Quand l'autre parle. Moi, j'ai ce gros défaut avec Jésus, c'est que des fois, je suis un peu bavard dans mes temps de prière. Des fois, il me dit, C'est bien, Karel, j'ai juste pas le temps d'en placer une, quoi. Donc, des fois, je dis, ah ouais, dans mon temps de prière, je vais faire un temps de silence. Et je considère que mon temps de silence fait partie de mon temps de prière. Je fais silence devant Dieu. Mais il faut que je m'astreigne un peu. Là aussi, c'est un peu discipline. Mais vous comprenez, on est tellement dans le rush, en train de vouloir ceci, cela, impatient, les circonstances, nos désirs. Et on ne fait jamais de pause pour écouter Jésus et lui dire, ok maintenant, Seigneur, qu'est-ce que toi, tu dis ? J'écoute. Vous connaissez ce passage du jeune Samuel, adolescent, dans le temple, qui entend que Dieu l'appelle, Samuel, Samuel. Puis il va voir le sacrificateur Élie et il lui dit, mais tu m'as appelé ? Non, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. Puis au bout d'un moment, le sacrificateur Élie lui dit, ah, je pense que je sais d'où ça vient. Quand tu entendras ton nom, tu diras, parle, ton serviteur, écoute. Et bien que cette phrase-là, ce verset-là soit nôtre, que nous puissions dire à Jésus, parle, parle Jésus, ton serviteur, ta servante, écoute. Alors, individuellement, est-ce que tu as des occasions de pause volontaire dans la présence de Dieu ? Est-ce que tu disposes ton cœur à recevoir ses instructions ? Est-ce que tu as, par exemple, un petit carnet dans lequel tu notes ce que Dieu te dit ? Si ton petit carnet est prêt, avec son petit stylo, disant, ben ça c'est quand Dieu va me parler, je vais être prêt à écouter. Eh bien c'est une disposition, c'est de cœur, de disciple. C'est-à-dire je suis prêt à t'écouter. En communauté, est-ce que nous avons la sensation d'être ensemble un corps à l'écoute de Dieu ? Qu'est-ce que Dieu a dit à notre communauté ces derniers temps ? Je ne vais pas répondre. Je vous laisse avec la question. Ou est-ce qu'il y en a seulement certains qui sont chargés d'écouter la voix de Dieu et puis nous, on va suivre ce qui va être dit ? Est-ce que nous avons régulièrement dans notre vie communautaire des pauses de nos activités pour nous mettre en jeûne et en prière, à l'écoute du Seigneur ? En tout cas, moi, je crois que ça devrait être quelque chose qui devrait faire partie de la vie normale d'un troupeau, de prendre le temps d'écouter la voix de Jésus. R, comme retenir. Ah oui, parce que j'ai oublié de dire une chose, mais quand Dieu parle, des fois ça nous passe au-dessus de la tête. Ça c'est la première chose. Des fois Dieu dit quelque chose, mais comme c'est pas vraiment ce qu'on a envie d'entendre, hein ? Il n'y a que moi ou... Non, ça vous arrive un peu ? D'accord, ok. Ouf. Je vais me sentir mieux, merci. Vous connaissez la parabole du semeur, tellement connue, où Jésus expliquera ce qu'elle veut dire. Il dira que la parole qu'il sème, en fait, c'est comme une semence, elle tombe dans différents terrains. Vous vous rappelez de ça ? Hein, des fois, ça tombe sur le chemin caillouteux, donc c'est de la pierre, donc ça, les semences, elles ne prennent pas racine. On écoute et il explique que c'est ceux qui écoutent, mais en fait, ils écoutent d'une oreille, quoi. Puis le reste, ça leur passe au-dessus. Puis il y a ceux qui retiennent un peu, mais qui se laissent étouffer par les soucis de la vie, les ronces, ou voler les choses par les corbeaux. Donc on a entendu la parole de Jésus, mais elle part aussitôt. On est inconstant. Et puis finalement, il y a celui qui retient la parole de Dieu, et on verra aussi qu'il y a encore plus que ça. Mais déjà, il retient. Il y a quelque chose qui tombe dans la bonne terre de son cœur. Il est prêt à recevoir l'enseignement de Jésus et à laisser cet enseignement de Jésus germer dans son cœur. Amen ? Yes. Gardons précieusement, très précieusement, ce que Jésus nous dit, individuellement et en communauté, retenons ce que Jésus nous dit. Il y a plusieurs versets, je ne les ai pas forcément mis là, mais qui parlent de ça, du fait de retenir ce que Dieu dit. Vous connaissez sans doute ce verset où Marie, la mère de Jésus, il est dit qu'elle avait retenu les choses dans son cœur, qu'elle les avait gardées précieusement dans son cœur, les paroles qui lui avaient été données, les paroles prophétiques sur la naissance du Messie, elle avait gardé ces paroles. Alors, est-ce que tu notes ce que Dieu te dit? Est-ce que tu as quelque part un carnet? Alors, ça peut être des carnets, des post-it, ce que tu veux. Merci beaucoup, Nicole. Je sais que toi, tu le fais. Vous mettez des post-it. Mais si vous ne le faites pas, je vous encourage à le faire aujourd'hui. Voilà. Prenez cette décision de dire, quand Dieu me dit quelque chose, je le garde. Je le retiens. Et je vous garantis que ça part très vite. Parce qu'on a tous des soucis. Même si Jésus nous a parlé, même si sur le moment on va se dire « Waouh, c'était tellement émouvant, tellement bon ce que Dieu m'a dit aujourd'hui », peut-être demain tu t'en rappelleras même plus. Et je vous garantis que la parole de Dieu, c'est comme une encre. Ça veut dire que, moi je sais qu'il y a certaines paroles ou certains versets que j'ai en post-it sur les murs de ma chambre, parce que je sais que dans les moments difficiles, je vais me rappeler ce qu'il a dit. Je l'ai sous les yeux. Alors j'ai même des... Comment c'est ? Il y a une certaine partie de mes post-it où c'est en cas de, vous savez ? En cas où je me sens pas bien, en cas où je suis malade, en cas où je m'énerve parce que quelqu'un m'énerve. Et là j'ai des paroles que Dieu m'a données à certains moments. Et je me rappelle, je dis « Ah oui, c'est vrai !» C'est vrai, quand quelqu'un t'énerve, tu le rappelles pas dans la foulée pour lui dire « qu'est-ce que tu dis, machin ?» Mais Dieu est souverain, rappelle-toi, garde la paix, garde la bonté, ce genre de choses, vous voyez. C'est tout bête, hein, c'est des choses. Vraiment, quand je vous dis retenez les paroles de Dieu, je suis pas en train de dire, vous pouvez noter les versets de la parole ou des choses que vous avez comprises ou reçues, mais c'est à vous, quoi, hein, ça vous appartient, c'est entre vous et Jésus plutôt, pour être précis. Ok ? Et en communauté, est-ce que nous avons clairement noté, retenu ce que Dieu a dit ces dernières années? On l'a entendu, peut-être, ou pas. Est-ce qu'on l'a retenu? Je ne sais pas. Mais je pense que si. En tout cas, il a dit des choses, et puis... Je sais, est-ce que c'est pas un secret que tu as, d'accord. Donc il y a un travail qui a été fait, notamment par Bernard et Jean Didier, où les paroles prophétiques données à l'Assemblée sont compilées et gardées. Je sais pas si c'est quelque chose... Bah, oui, ça va, je peux en parler. Oui. Je demande, parce que je suis pas très... Ok. Donc, non mais c'est super, vous voyez ce que je veux dire? Ça c'est vraiment, et je trouve ça tellement bien. Je ne sais pas si vous sentez le bénéfice que ça peut avoir, une telle chose. Je ne sais pas si dans toutes les églises, c'est comme ça, honnêtement. Dieu a dit quelque chose à l'église, et puis... Pff, hein ? Ah ben, ça, je ne sais pas. Voilà, c'est ouvert les portes. Yeah, ta-da-da. Voilà, voilà. J'ouvre des portes, je ne les ferme pas, je laisserai répondre. Voilà, voilà. Alors, il reste deux lettres. On n'a pas fini. Vous avez vu un peu le... Alors, il reste deux lettres quand même. On a fait du bon boulot jusque-là. Bravo. On a une communion avec le Seigneur. Ouais, on aime Jésus. Et on passe du temps avec lui. On apprend à discerner sa voix parmi les autres. On écoute, on est des disciples. On dit, Seigneur, parle, parle-nous. Oui, on veut t'écouter. Et en plus, on retient. C'est-à-dire que quand il nous a dit quelque chose, on le garde précieusement. Waouh ! Déjà là, si on arrive là, on sent que oh, c'est pas mal déjà. Hein ? Mais il y a deux lettres. I comme interroger. Quand Dieu parle, quand Jésus nous parle, est-ce que nous sommes capables de comprendre ce qu'il dit ? C'est une bonne question, hein ? C'est une bonne question. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, quand Dieu me parle, souvent, il y a une sensation qui dit « Ok, je pense que j'ai compris quelque chose, mais il va falloir préciser. » Et alors, alors peut-être c'est que moi, mais moi, Jésus, il me fait ça très souvent. Vraiment, quand je sens qu'il me parle, je sens que c'est lui, mais je suis là en train de me dire, ça peut vouloir dire plein de choses, en fait. Son langage est divin. Bien sûr, Jésus cherche à se mettre à notre portée, mais en même temps, il ne veut pas seulement nous donner des informations. Et il fait exprès. En fait, Jésus explique ça très bien avec les paraboles. Donc on a parlé de la parabole du semeur, il y a quelques instants. Vous vous rappelez qu'ensuite les disciples viennent interroger Jésus et lui disent « Tu nous as parlé du semeur avec des semences là, on n'a pas tout pigé. Est-ce que tu peux nous expliquer ?» Donc il leur explique, il leur dit « La parole c'est les semences, les terrains c'est le cœur de celui qui retient, qui ne retient pas, etc. » Vous vous rappelez de ça? Ouais. Donc, du premier coup, ils n'ont pas compris l'histoire des semences, du semeur. Ok, alors, bon, tu peux bien nous expliquer. Alors, il leur explique, et puis, alors, c'est dommage, je ne l'ai pas mis, j'ai oublié, mais je vais vous raconter, ça ne fait rien. Vous lirez chez vous la parabole du semeur, Matthieu 13, je crois. Et je ne sais plus exactement comment c'est amené, mais la question vient, mais pourquoi Jésus parle en parabole? Pourquoi il ne dit pas directement le truc? Pourquoi il ne dit pas « vous ne retenez pas ma parole » Pourquoi il dit une parabole? Il pourrait expliquer plus clairement les choses. Non? Alors, Jésus fait une réponse étonnante. Moi, je me serais attendu à ce qu'ils disent, ben, je leur fais une parabole parce que c'est une image, c'est plus pédagogique, comme ça ils vont mieux comprendre. Est-ce qu'il dit ça? Il ne dit pas ça du tout, mais pas du tout. Il dit, je parle en parabole. Qui c'est qui connaît la réponse? Pourquoi Jésus parle en parabole? Pour qu'ils ne comprennent pas. Pour qu'ils ne comprennent pas. C'est très bizarre, hein? Et c'est vraiment ça qui est dit, hein. Vous pourrez vérifier le texte, je leur parle pour qu'ils ne comprennent pas. Ça accomplit une prophétie qui avait été dite, je leur parlerai mais ils ne me comprennent pas. C'est pas que Jésus ne veut pas qu'ils comprennent. C'est juste que ceux qui ont eu la compréhension de son enseignement sont ceux qui sont venus le consulter, le voir. L'interroger. Les disciples ont eu la réponse. Tous les autres n'ont rien compris de la parabole du semeur. Nous, heureusement, maintenant, on allait au travers des... Heureusement qu'ils sont allés poser la question, parce qu'on serait encore en train de nous d'interpréter le semeur, et il y aurait plein de gens qui diraient plein d'interprétations différentes de cette parabole. Heureusement que Jésus a expliqué. Est-ce que vous commencez à comprendre ce que je veux dire? Jésus, c'est pas que Jésus veut nous tourner en bourrique. C'est simplement qu'il veut pas juste nous donner des informations. Ce n'est pas un distributeur, Jésus. Il a un enseignement à nous apporter qui passe par une communion, par une relation, par ce temps où nous allons... Ah ben, tiens, magnifique. Merci, Gérard. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Donc c'est vraiment clair. Donc, Jésus veut qu'on vienne à lui et qu'on passe du temps, pas seulement à dire, Jésus il a dit, faisons ça, on fait ça et on ne se pose pas plus de questions. Il veut faire les choses avec nous. Et souvent, alors j'aime beaucoup cette image, j'ai entendu ça dans la bouche de Kirk Bennett, qui est un enseignant que j'aime beaucoup, américain, et qui dit c'est un peu comme le papa qui joue à cache-cache avec ses enfants. Des tout petits enfants, vous imaginez, comme un grand, on pourrait dire un grand-père avec ses petits enfants peut-être. Il va jouer à cache-cache et il explique. Moi, en tant que grand-père, donc c'est Kirk Bennett qui dit ça, en tant que grand-père, si je veux, je peux faire en sorte que mes petits-enfants ne me trouvent jamais. Je prends ma voiture, je m'en vais de la maison, mes petits-enfants vont pouvoir me chercher toute la journée, ils ne vont jamais me trouver. Mais ce que je vais faire, parce que j'ai envie de passer du temps avec eux, je vais me mettre derrière les rideaux, puis je vais faire dépasser mes pieds. Comme ça, je suis caché, mais le but, c'est pas d'être caché, le but, c'est d'être trouvé. Ben, je crois que Jésus, c'est la même chose. Quand il veut nous parler, c'est pas qu'il a des choses à nous cacher, mais il nous attire à lui, en quelque sorte. Pose-moi des questions. Si tu sais pas, viens m'interroger. J'ai dit quelque chose sur ta vie, mais tu sais pas quand, et tu sais pas pourquoi ça se fait pas, ou ça se fait pas comme tu voudrais. Viens, on va en parler. Individuellement, la clé, c'est de poser des questions à Dieu. Moi, je lui pose des questions tous les jours. Qu'est-ce que tu penses de ça? Et pourquoi ça? Comme le petit enfant, quoi. Pourquoi tu fais les choses comme ça? Je voudrais comprendre. Et il me répond. En tant que communauté, il y a vraiment aussi un travail d'église. Et quand je dis d'église, c'est nous tous. Il y a un travail d'église pour chercher ce que Dieu veut dire quand il dit quelque chose. On a parlé, par exemple, pour ceux qui sont là, qui ont suivi les enseignements des vidéos « Premier amour », on a parlé du premier amour. Donc on a creusé cette question parce que Dieu nous en a parlé. Dieu a dit « Premier amour », qu'est-ce qu'on fait avec ce premier amour? Ok, il dit « Premier amour », mais ça veut dire quoi, « Premier amour » Ok, tu veux qu'on retrouve notre premier amour, Seigneur? Alors, ben, vous avez vu, il y a eu plusieurs intervenants qui ont chacun cherché aussi le cœur de Dieu. Vous avez vu combien d'angles différents il y avait? Pour ceux qui ont suivi cette série de vidéos, si vous ne l'avez pas fait, allez sur le site de l'Église, elles y sont. Là, on est dans une forme de... On interroge Dieu. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Donc, il y a un travail d'Église à faire pour s'interroger ensemble sur ce que Dieu veut dire, veut nous dire. Ne mets pas encore la lettre suivante. D'après vous, le haut, c'est quoi? Oh, vous êtes trop fort. Bravo. Haut comme obéir. Si tu l'as. Bon, c'est haut comme obéir. Bien évidemment, et nous le savons tous, il n'y a pas de véritable écoute sans mise en action. Jésus nous appelle à renoncer à nos propres voies, à nous charger de notre croix et à le suivre. Et je vais vous dire une chose, c'est souvent là que ça pêche aussi. Et comment j'ai écrit ça? Oui, on n'écoute pas bien si on n'est pas disposé à obéir. On n'écoute pas bien si on n'est pas disposé à obéir. L'obéissance, c'est vraiment une condition indispensable. C'est la conclusion de la parabole du semeur. Hein. Celui qui écoute, qui retient et qui met en pratique mon enseignement, qui fait ce que j'ai dit. Ça veut dire qu'écouter la voix de Dieu, c'est accepter de changer à l'intérieur de nous notre style de vie pour nous caler sur le style de vie de Jésus. Ah, il y a du boulot. Aligné sur la pensée de Dieu, sur ce que Dieu nous demande, sur ce que Jésus nous a enseigné. Il ne suffit pas de l'entendre le dimanche. Il faut aussi tous les jours mettre en pratique ce que Jésus va nous dire. Et je vais même plus loin, je pense qu'il arrive qu'on n'entende pas bien la voix de Dieu parce qu'on n'a pas obéi à quelque chose qu'il nous a déjà dit. Ça m'arrive tout le temps. Car des fois, je veux que Dieu me parle, sauf que je n'ai pas obéi au truc précédent. Dieu, des fois, il me rappelle, il dit « Attends, on avait dit ça, je t'ai dit ça, tu en es où avec ça ?» Individuellement, je crois vraiment que c'est une dimension de la foi qui va dire « Je suis prêt à t'obéir. » C'est pas facile. Dites pas ça à la légère. Je pense que j'en ai déjà parlé ici, mais j'ai un post-it. J'ai plein de post-it. J'en ai un notamment qui dit que j'ai appelé la prière dangereuse, qui dit quelque chose comme je suis prêt à t'obéir jusqu'au bout et en totalité. Ouh là là. Mais je l'ai dit sincèrement. Mais je sais que c'est dangereux. Je sais que ça a un prix. Mais c'est bien là être disciple du Christ. Je ne suis pas là pour choisir ce que j'ai envie de faire ou pas à la carte. Moi, je veux être disciple du Christ en entier, alors c'est bien ça. Je suis prêt à t'obéir. Et là, normalement, des fois, on dit derrière, sauf si tu m'envoies comme missionnaire en Afrique, et là, je ne suis pas sûr d'être capable de le faire. C'est super, hein, au Congo. Moi, j'aimerais bien être missionnaire au Congo, ça serait bien. Donc on met sauf, on met les mais, vous savez. Je suis prêt à t'obéir, mais. Ça, c'est la parabole du jeune homme riche. Hein. J'ai tout fait, ouais, pas de problème. Dis-moi ce que je dois faire. Vends tout ce que tu as et suis-moi. Il faut vraiment peser ça. Ça veut dire aussi être prêt à incliner notre volonté à la sienne. Ah, j'ai mis une question. Qu'est-ce que tu as choisi de changer dans ta vie suite à quelque chose que Dieu t'a dit ? Souvent, quand Dieu dit quelque chose, Dieu te dit ben, je vais t'envoyer dans tel domaine. Il dit, ouais, ok, j'attends. Vas-y, envoie-moi. Non. T'as pas compris. Je t'envoie là-bas. Ah oui, mais je vais faire comment pour les sous? Je vais faire comment pour mon travail? Je vais faire comment? Non, mais je t'envoie là-bas. Non, quand Dieu parle, quand Jésus parle, c'est pour qu'il y ait quelque chose qui change. C'est une disposition de cœur. Vous n'aurez pas toutes les réponses avant de partir. Hein. Avant de vous engager, vous n'aurez pas tous les moyens financiers pour. Vous aurez votre foi. Vous serez comme Abraham dans son pays, là. Il est parti sans savoir où il allait, en plus. Dieu lui a dit, va, il est parti. Qu'est-ce qu'il te dit avec ça, aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas des choses dans ta vie, à toi, où tu sais que Dieu a parlé? Est-ce que tu es prêt à obéir? À mettre ta vie sur l'autel? Et en communauté, alors, est-ce que nous vivons ce que Dieu nous a demandé d'être? Ou est-ce que on en est loin? Voilà, c'était un petit outil tout simple. Je vais m'arrêter là. Je redis simplement voilà, A comme adorer, la communion avec Dieu. E comme écouter, c'est-à-dire faire pause un peu de temps en temps et se mettre dans la disposition d'une écoute active de Dieu. Prendre du temps. R comme retenir, garder les paroles que Dieu donne. I comme interroger, c'est-à-dire, ok, j'ai entendu ça, mais qu'est-ce que je dois faire? Comment? Conduis-moi, conduis les choses. Et O comme obéir, c'est-à-dire mettre en action ce que Dieu dit. J'ai conscience que c'est un peu... ça peut être un peu déstabilisant de passer nos vies comme ça, on a l'impression de passer notre vie au crible de quelque chose, en se demandant est-ce que moi j'écoute en fait. Je ne voudrais pas que ça vous submerge, mais en même temps, on est dans des temps où j'ai vraiment à cœur de nous dire que l'écoute de la voix de Jésus, c'est primordial. Vraiment, c'est primordial. On entend tellement de choses et on ne sait plus ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. Et je me dis, je préfère vous dire ça, parce que si on n'écoute pas la voix de Jésus, ben on écoute la voix de quelqu'un d'autre. La nôtre, celle de quelqu'un, celle de l'ennemi, qui sait ? Donc je préfère me dire que je vais essayer d'écouter la voix de Jésus. Ça me paraît important. C'est pour ça que je ne vous ai pas trop ménagé. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. C'est critique. On a besoin de l'aide du Saint-Esprit dans toute chose où on a besoin de grandir. Ok ? Pour notre écoute personnelle et notre écoute communautaire. On a besoin de grâce, on a besoin de s'y mettre. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est le bon berger. Amen. Ah, yes. Donc, est-ce qu'il ne va pas chercher la moindre de ses brebis ? Est-ce qu'il ne va pas conduire son troupeau ? Jésus est celui qui fait entendre les sourds. Donc, si nous sommes sourds à la voix de Dieu, eh bien, on peut prier peut-être pour qu'il nous fasse entendre sa voix. Prions. Seigneur Jésus, c'est vrai que tu es le bon berger. Et nous avons tellement envie, tellement besoin d'entendre ta voix. Fais-nous entendre ta voix, ô notre bien-aimé. Oh oui, Seigneur, il n'y a rien de meilleur que de te suivre, que de suivre ton enseignement. Tu nous rassures quand on ne va pas bien. Tu nous encourages. Quand on se trompe, tu nous le dis. Mais tu es là et tu nous conduis. Seigneur, je veux te demander vraiment que tu nous aides à t'entendre mieux. Ce n'est pas juste la question de l'outil, Seigneur, c'est la question de vraiment être des chrétiens qui t'écoutent. Il y a tellement de voix autour de nous, Seigneur. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, on l'a chanté ensemble. Mon bien-aimé, il se distingue parmi des milliers de milliers. Et parmi toutes les milliers et milliers de voix qui s'élèvent, la tienne nous importe, Seigneur. La tienne est celle que nous voulons entendre le plus. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas écouter les autres, mais ta voix est au-dessus des autres. Ta voix, elle est plus précieuse, elle est plus douce. En tant que communauté, Seigneur, on a aussi besoin d'entendre plus ta voix pour les temps à venir. Qu'est-ce que tu attends de nous et comment on peut y répondre ? Seigneur, nous voulons être des porteurs de l'évangile, de ton évangile. Alors on a besoin de lire la parole, on a besoin de passer du temps avec toi ensemble, on a besoin de comprendre où tu veux nous emmener. Saint-Esprit, viens et aide-nous. Je voudrais, gardons les yeux fermés, restons dans cette atmosphère-là. Simplement, si aujourd'hui, tu te sens travaillé par quelque chose au niveau de ton écoute de Dieu, parmi les points qui ont été cités, peut-être qu'il y en a certains qui tu t'es dit, ouais, là, peut-être il y a peut-être quelque chose qu'il faut que je fasse ou que je change, que ce soit la lecture de la parole, le temps avec Dieu, la capacité à retenir, à faire pause de temps en temps pour écouter Dieu ou à simplement obéir à des paroles qui ont déjà été données, par exemple. Si c'est ton cas, je vais juste t'inviter à lever la main. On ne va pas se regarder les uns les autres, mais en signe vraiment vers le Seigneur que tu désires que ce point précis s'améliore avec l'aide du Saint-Esprit. Et on va demander ensemble l'aide du Saint-Esprit parce qu'on est là aussi pour se soutenir les uns les autres, pour qu'il y ait vraiment un changement, une amélioration de ce point-là. Alors voilà, si tu te sens concerné par un des points, ou plusieurs, hein, pas de problème, ben lève la main là où tu es et on va appeler le Saint-Esprit maintenant. Saint-Esprit, je te remets tous ceux qui ont du mal à entendre ta voix pour une raison ou pour une autre. On est tous faits pour entendre ta voix. Et déjà, je brise vraiment toutes les pensées qui nous gardent captifs des autres voix sans écouter la tienne. Saint-Esprit, viens et aide-nous. Aide tous ceux qui lèvent la main à t'entendre mieux. Porte-les. Saint-Esprit, tu viens, tu ouvres les oreilles. Tu ouvres la vie quotidienne à laisser du temps. Tu les aides à prendre des décisions dans ce domaine. Tu viens, Saint-Esprit, comme une force qui va prendre leurs oreilles et leur cœur et leur faire discerner la voix du berger pour leur propre vie. Nous croyons que nous sommes une église qui t'écoute, qui veut t'écouter, individuellement et collectivement, Seigneur. Qu'on puisse dire de cette église qu'elle écoute ta voix, qu'elle entend ta voix et qu'elle obéit à ce que tu dis. Qu'elle obéit à l'évangile du Christ, à l'évangile véritable. Je te demande aussi une grâce particulière pour l'obéissance, Seigneur. Nous reconnaissons, en tout cas moi je reconnais, et peut-être certains parmi nous, que parfois tu as dit des choses dans lesquelles nous ne sommes pas entrés. Parce que ça nous faisait trop peur, parce qu'on ne savait pas comment, parce que ceci, parce que cela, on a toutes les bonnes raisons. Seigneur, je te demande pardon vraiment, que ta grâce vienne maintenant. Donne-nous la joie et la force d'obéir à ta parole, d'y entrer pleinement, de se dire c'est pas le moment de tergiverser, c'est le moment de suivre le berger, individuellement et collectivement encore. Et Seigneur, s'il y a des personnes ce matin qui se sentent égarées, loin du troupeau, je te demande d'aller les chercher. Parce que tu vas chercher et tu aimes la moindre de tes brebis. Va la chercher, va chercher chacun de nous, Seigneur, là où on en est aujourd'hui, pour nous ramener dans ton troupeau et nous conduire vers les verts pâturages. Ensemble, Seigneur, aussi. Et j'entends pour plusieurs que ton cœur ne se trouble pas. C'est moi qui fais ce que je suis en train de faire dans ta vie. Et je vois que c'est comme si le Seigneur te disait, ton cœur est honnête et sincère, et j'aime ça. Tu n'as pas un cœur partagé. Tu as vraiment envie de faire ce que je te dis, mais il y a une honnêteté qui dit aussi, j'ai pas fait ce que tu m'as demandé. Il y a une grâce particulière pour toi aujourd'hui. Il te prend sur ses épaules et il te dit maintenant, tu es rétabli dans l'écoute, dans le troupeau. Tu fais partie de ce troupeau. Que ton cœur ne se trouble pas. Maintenant, je sais ce que je fais, en quelque sorte, te dit Jésus. Je sais ce que je fais dans ta vie. Je sais par quoi tu es passé. Maintenant, je veux te ramener dans ce que tu dois être vraiment. Laisse-moi te conduire. Laisse-moi te parler. Je veux libérer aussi pour terminer une onction particulière sur les rêves, parce que c'est aussi un langage que Dieu utilise pour parler, et c'est un langage qui devient critique aussi dans les derniers temps, que Dieu a utilisé chaque fois que les temps étaient sombres. Souvent il faisait faire à ses enfants beaucoup de rêves, et je vois le Seigneur libérer une onction de rêve au milieu de nous, où il va parler, où il va dire des choses concernant vos vies au travers des rêves que vous faites la nuit. Alors nous libérons, Seigneur, cette onction des rêves prophétiques au milieu de nous, sur nous, sur nos enfants, et aide-nous aussi à comprendre ce que tu dis et à y obéir aussi, avec ta parole, bien sûr, toujours. Donne-nous d'être des amoureux de ta parole, et d'avancer au son de ta voix. Amen.